Vous écoutez Séquence Parc sur la fréquence 107 et sur www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes, un nouveau rendez-vous chaque mois pour vous parler de l'actualité du Parc national. Cette émission est diffusée une semaine le mardi à 10h, la semaine suivante le jeudi à 13h.
Bonjour à tous, Natacha Maltaverne, attachée de presse au Parc national des Cévennes. Ce matin, je suis avec Jean-Pierre Lafont, président du syndicat lausérien de la forêt privée et président de la commission forêt du parc. Bonjour Jean-Pierre Lafont.
Bonjour.
Et je suis avec Baptiste Algoué, chef de projet observatoire de l'équilibre agro-sylvo-synergétique au Parc national des Cévennes. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Et donc ce matin, nous allons parler de l'observatoire de l'équilibre agro-sylvo-synergétique que met en place le Parc national des Cévennes. Baptiste, c'est un peu barbare comme nom. Alors qu'est-ce que ça veut dire agro-sylvo-synergétique ainsi que équilibre ?
Voilà, alors c'est vrai que ça mérite d'être précisé, le terme peut faire un peu peur. Alors, en fait, la définition est assez simple. Agro, hein, qui a un rapport avec l'agriculture, sylvo, c'est qui est relatif à la forêt, et synergétique, alors c'est le plus gros terme, mais c'est tout simple, c'est qui est relatif à la chasse. Donc l'équilibre agro-sylvo-synergétique, en gros, c'est... Alors, il faut savoir que c'est défini réglementairement par la loi, par le code de l'environnement. Et en gros, l'équilibre, ça, c'est juste ce qui consiste à rendre compatible la présence d'une faune sauvage, de la faune sauvage, d'une faune riche et variée, avec les activités humaines, et notamment les activités agricoles et forestières.
Et donc qui dit observatoire, il faut observer cet équilibre.
Voilà, c'est ça, parce que alors derrière ces définitions qui sont relativement simples, hein, qui paraissent simples au premier abord, en fait, il y a une notion un peu complexe. C'est-à-dire que l'équilibre, ça dépend pas seulement des populations animales, ni des forêts ou des milieux, mais ça dépend aussi des objectifs et des activités, donc comme je le disais, agricoles et forestières. Donc ces objectifs peuvent varier en fonction de la surface de l'exploitation, de la localisation. Il y a de nombreux facteurs. Ça peut varier aussi en fonction de la sensibilité personnelle des forestiers, des agriculteurs, de leurs objectifs. Et donc, voilà, en gros, pour atteindre l'équilibre, il faut que tout le monde soit satisfait, tout le monde soit d'accord avec cette situation. Et c'est ce qui nécessite un observatoire pour savoir où on en est.
Jean-Pierre Lafont, les forestiers étaient en attente de cet outil, de cet observatoire ?
Oui, tout à fait. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une cinquantaine d'années, il n'y avait pas de cervidés dans le territoire du parc, enfin dans le territoire des Cévennes. Les cervidés ont été réintroduits à un moment donné et n'ont pas été chassés dans un premier temps. Donc ils se sont largement développés. Et ce que le grand public ne sait pas, c'est que les cervidés occasionnent quelquefois des dégâts sur les plans forestiers. Il y a trois types de dégâts. Il y a les abrutissements. À ce moment-là, les cervidés mangent les pousses des jeunes plants et donc déforment les jeunes arbres qui deviennent des buissons. C'est très, très gênant, évidemment, pour l'avenir de l'arbre. Ils peuvent faire aussi des abrutissements, mais ils peuvent également faire des frottis ou des écorçages. Écorçage, c'est avec les dents qu'ils rongent l'écorce. Et les frottis, c'est avec leur bois qu'ils frottent les troncs à certaines périodes de l'année. Et donc là aussi, ils arrachent l'écorce et ils vont jusqu'au bois, ce qui crée des plaies qui ne se cicatrisent pas forcément. Et l'arbre est déprécié. Donc là, évidemment, il faut intervenir. Enfin, aux yeux des forestiers, il faut vraiment intervenir pour limiter ce type de dégâts. Et sinon, on déprécie fortement les peuplements. Donc on est demandeur d'avoir un observatoire qui permette de juger de la pression du gibier et éventuellement après de prendre les mesures de correction du déséquilibre lorsque déséquilibre il y a.
Voilà, c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'est né l'observatoire, sur une impulsion des forestiers. Il y avait de plus en plus de forestiers qui se plaignaient de ne plus réussir à régénérer leur forêt, à subir des dégâts importants. Mais malgré ça, on manquait de données, on manquait d'informations. On avait d'autres acteurs du territoire qui disaient mais non, des cerfs, des biches, on en voit moins qu'avant, on voit plus de grands cerfs. D'autres qui disaient bon non, tout va bien, ou qui disaient mais non, c'est vous les forestiers qui ne savez pas faire votre métier. Et donc voilà, donc on avait pas de constat partagé. Et donc, comme vous avez entendu la définition de l'équilibre tout à l'heure, sans constat partagé, on ne peut pas définir de mesures de gestion. Donc, nos amis gestionnaires, chasseurs, notamment, quand il s'agissait de définir les plans de chasse, c'est-à-dire est-ce qu'il faut chasser plus, est-ce qu'il faut chasser moins, eh ben, on savait pas, on savait pas par où aller parce qu'on avait vers où aller parce qu'on n'avait pas ce constat. Donc, l'observatoire, c'est vraiment l'objectif, c'est de réussir à définir un constat partagé qui servira de base à définir aussi des objectifs communs et donc des mesures de gestion pertinentes et adaptées.
Voilà, c'est ça la finalité. Il faut savoir sur quelle zone on peut, il faut augmenter ou pas la chasse, concrètement.
Oui, tout à fait.
Il y a deux objectifs principaux à l'observatoire. C'est un, assembler et disposer de données qui soient fiables. Alors, récolter selon des méthodes valides, qui soient scientifiquement valables, et des données qui pourront être utilisées pour apprécier où est-ce qu'on en est dans ce fameux équilibre. Et le deuxième objectif, qui n'est pas moins important que le premier, c'est de se servir de l'observatoire pour améliorer le dialogue entre les acteurs du territoire. On l'a vu tout à l'heure, hein, ces situations, le manque de constat partagé faisait qu'il pouvait y avoir des conflits potentiellement. Et l'idée, c'est aussi de faire dialoguer les acteurs, de mettre tout le monde autour de la table et de voilà que les informations puissent être partagées entre tout le monde.
Jean-Pierre Lafond, de quelle façon les forestiers ont été associés donc tout au long du processus de création?
Dès le départ, évidemment, on a été associés parce qu'on était fortement demandeurs. Je crois, moi, je m'étais exprimé à plusieurs reprises dans des instances du parc pour souhaiter voir cet observatoire voir le jour réellement, puisque ça faisait très longtemps qu'on en parlait. Donc, à chaque étape, Baptiste nous a invités à faire des remarques, le cas échéant, sur les premières ébauches qu'il avait élaborées. Et finalement, je crois que tout le monde s'est retrouvé sur le formulaire dont il va nous parler tout à l'heure, sur la méthode vraiment de travail. Et tous les organismes, finalement, participent d'une façon ou d'une autre avec les moyens qu'ils ont, avec les personnels qu'ils peuvent mettre à contribution. Il y a des organismes qui ont du personnel, il y en a qui n'en ont pas. Les syndicats, comme celui dont je suis le président, n'a pas de personnel, mais on participe quand même à toutes les commissions, à toutes les réunions, et on peut éventuellement participer de manière financière ponctuellement sur certaines opérations.
Pour avoir une idée, les forestiers en Lozère, c'est combien de personnes?
Alors, les forestiers en Lozère, ils sont particulièrement nombreux, puisqu'on considère qu'il y a 22 000 propriétaires forestiers privés en Lozère. Alors, il y en a même qui sont propriétaires et qui s'ignorent, si vous voulez, en tant que réellement sylviculteurs, il y en a qui ne font pas grand-chose, honnêtement. Après, il y a des propriétaires qui sont beaucoup plus motivés par la gestion forestière et qui, eux, s'intéressent de plus près à leur peuplement. Et alors, en termes de problématiques dégâts de gibier, je suis persuadé qu'il y a des propriétaires qui ne savent même pas qu'ils ont de gros dégâts dans leur forêt, parce qu'ils ne s'en préoccupent pas beaucoup, et c'est dommage. Mais par contre, il y en a d'autres qui suivent de très près leur peuplement et qui peuvent des fois parler de dégâts alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais simplement en voyant un arbre abîmé, tout de suite, ils lancent des hauts cris. C'est pour ça qu'il faut arriver quand même à ce que les remarques qui sont formulées par rapport aux dégâts deviennent objectives, quoi, qu'on ne dise pas tout et n'importe quoi.
Moi, je voulais juste rebondir sur la façon dont on a associé effectivement tous les partenaires. Donc moi, dès que je suis arrivé pour me mettre en place cet observatoire, une des premières choses qu'on a fait, c'est monter un comité de pilotage qui rassemble, donc qui est animé par l'établissement public du parc national, mais qui rassemble aussi les représentants des agriculteurs à travers les chambres d'agriculture départementales, les représentants de la forêt privée, hein, dont M. Lafond fait partie, donc les deux syndicats départementaux, mais également la coopérative forestière et le centre régional de la propriété forestière. L'Office national des forêts, bien sûr, en tant que représentant de la forêt publique, des organismes de recherche scientifiques nationaux pour apporter un peu leur caution scientifique et vérifier la validité de ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, d'autres services de l'État, comme les directions départementales des territoires ou la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc l'idée, voilà, on a vraiment mis tout le monde autour de la table. Très vite, le comité de pilotage valide l'idée, les principales étapes. Il a validé le périmètre de l'observatoire. Il a validé le contenu, les différents volets de l'observatoire, etc., etc. Et voilà. Et après, dans notre façon de travailler, comme le disait Jean-Pierre, on a effectivement on travaille vraiment en concertation. Donc dès qu'on fait quelque chose, on le partage avec les partenaires, on organise des réunions techniques et on se met d'accord sur le contenu pour que l'outil soit vraiment partagé par tous.
Vous parliez du périmètre, alors est-ce que cet observatoire couvre tout le territoire du parc national ?
Alors le périmètre de l'observatoire, il a été défini comme toute... Donc il est basé sur les délimitations des communes et il intègre toutes les communes qui ont une partie de leur territoire dans le cœur du parc national ou frontalière au cœur du parc national. Ça permet d'avoir une sorte de zone tampon, une surface suffisamment grande qui a un sens du point de vue gestion de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et qui intègre l'ensemble du cœur du parc national.
Très bien, je vous propose de faire une petite pause musicale pour revenir ensuite donc sur cet observatoire.
Thank you. pasta, can't bear this custard. Yeah, never again, never again, just can't stand this kind of pain. Never again, never again, just need a hint to start again. So you swear never again, you won't bear this kind of pain.
Donc Baptiste, très concrètement, à partir de maintenant, les propriétaires peuvent déclarer les dégâts qu'ils ont sur leur parcelle.
Voilà, tout à fait. C'est un des volets de l'observatoire qui s'est traduit par la mise au point d'un outil mis à disposition des forestiers, donc propriétaires comme gestionnaires, quelle que soit la superficie forestière qu'ils possèdent ou qu'ils gèrent, qui permet donc aux forestiers de déclarer en ligne directement des dégâts de cervidés ou d'ongulés sauvages d'une manière plus générale sur leur forêt. Donc ils peuvent se connecter sur le site internet, alors l'adresse est un peu compliquée, c'est OEASC, comme observatoire de l'équipe agro-sylvocynégétique, .seven au pluriel, -parcnational.net. Et donc, en se connectant sur ce site, ils peuvent accéder au formulaire en ligne qui leur permettra de faire cette déclaration de dégâts. Et ça permettra de signaler comme ça aux décideurs, aux gestionnaires, les zones les plus touchées par les dégâts de la faune sauvage.
Donc, il faut préciser que ce formulaire est anonyme. Et combien de temps ça prend ? Enfin, qu'est-ce qu'on doit renseigner ?
Alors, on a conçu cet outil, l'objectif c'était de faire quelque chose de très simple. Donc, bien sûr, les données restent anonymes, confidentielles, elles ne seront pas traitées nominativement. L'idée, c'est au contraire d'assembler les données et de les traiter de façon globale pour identifier les zones à problème ou les zones où il y a le plus d'enjeux. Donc, voilà, le formulaire peut être renseigné directement depuis son ordinateur, hein, ça prend une dizaine à quinzaine de minutes. Sur la fond, vous pouvez confirmer que ça ne prend pas plus longtemps, vous l'avez testé.
Oui, je l'ai testé à plusieurs reprises et effectivement, c'est un formulaire qui se veut simple à remplir et accessible à tout un chacun normalement. Et ça prend effectivement 10 à 15 minutes. Quand on connaît bien sa propriété, on n'a pas de difficulté particulière à le renseigner. Alors, il faut quand même dire que les personnes qui ne sont pas trop habiles sur Internet peuvent prendre contact avec des personnes qui sont justement destinées à les aider. Dans chaque organisme forestier privé en particulier, il y a au moins une personne qui pourra donner des conseils aux propriétaires qui auraient des difficultés à renseigner sa déclaration. Ça sera communiqué par voie de courrier, je pense, à tous les propriétaires forestiers d'ici quelques temps, là.
Voilà, sur le site figurent les coordonnées de ces personnes référentes qui peuvent être contactées par mail ou par téléphone pour effectivement apporter une assistance aux propriétaires à faire cette déclaration. Voilà, après ce formulaire, donc c'est des questions très simples. Il va s'agir de décrire très rapidement sa forêt, en quelques questions très simples, et après de décrire les dégâts. Alors, est-ce que ce sont des dégâts, comme vous le disiez tout à l'heure, des dégâts d'abroutissement, de frottis, d'écorçage? Quelles sont les essences touchées? Est-ce que ce sont des dégâts qui sont considérés comme graves, modérés ou peu importants? Donc voilà, et tout ça viendra alimenter cette grande base de données.
Et justement, comment seront analysées les données? Comment seront diffusés les résultats? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière?
Voilà, alors aujourd'hui, sur le site, figure les pages, le site est encore en cours de construction, le projet n'est pas fini, donc l'outil est disponible. On a également des pages de présentation de l'observatoire qui sont consultables. Par contre, toutes les pages de restitution des résultats sont encore en cours de construction. Donc une fois que les données seront traiter et analyser. Voilà, on a toute une batterie d'analyses qui sera faite. On pourra avoir des cartes de restitution des résultats pour voir où se situent les dégâts, des graphiques pour voir l'évolution des dégâts dans le temps, pour savoir quel type de dégâts sont majoritaires, quelles sont les essences ou les types de peuplements les plus touchés. Donc voilà, c'est ce type d'informations-là qui sera apporté et qui, donc, dans les prochaines étapes du projet, seront définies de façon à être automatisées et présentées de façon la plus simple, la plus parlante possible, et ensuite mis en ligne et à disposition du public, du grand public, mais et des gestionnaires.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. Je veux quand même faire une petite précision. C'est que les personnes qui vont faire des déclarations de dégâts, il ne faut quand même pas qu'elles s'attendent à avoir la résolution de leurs problèmes immédiatement. Mais leur déclaration est tout à fait utile et indispensable si on veut que l'observatoire serve à quelque chose. C'est l'accumulation des données sur la durée, en plus, qui permettra d'atteindre l'équilibre. Ce n'est pas juste une déclaration qui va permettre de régler le problème de M. Dupont, par exemple. Ça, c'est clair. Il faut que M. Dupont comprenne que c'est sa donnée additionnée à celle de ses voisins et de toute une zone qui permettent de définir une nouvelle stratégie de chasse, une accentuation de la pression. Mais on ne peut pas, évidemment, répondre... Et de toute façon, éliminer un cerf à un endroit donné n'empêchera pas un cerf du voisinage de revenir et de faire des dégâts. Donc il faut que les personnes qui vont faire des déclarations ne s'attendent pas à régler leurs problèmes immédiatement, mais soient persuadées qu'elles contribuent à régler le problème global.
Et donc vous invitez les forestiers à déclarer dès qu'il y a un dégât?
Ah, bien sûr, ça c'est indispensable. Ce n'est que comme ça que l'observatoire pourra fonctionner, c'est par l'accumulation des déclarations des propriétaires vraiment impactés.
Et est-ce qu'on peut savoir, avoir une estimation à partir de combien de déclarations, à partir de combien d'années on peut espérer avoir des données fiables, enfin sur le temps, on peut avoir une estimation ou pas du tout?
Il n'y a pas de chiffres. C'est sûr qu'avec 10 déclarations, on aura du mal à tirer des tendances sur un territoire qui fait plus de 200 000 hectares. Donc ça va vraiment dépendre de la réactivité des forestiers, du nombre de déclarations qu'on va recevoir. On espère pouvoir en avoir le plus possible, le plus rapidement possible, pour pouvoir tirer des tendances, ou au moins identifier les secteurs à enjeu, qu'ils soient communiqués au cours de l'année aux partenaires de la chasse et aux différentes instances décisionnaires.
C'est la fin de Séquence Parc. Excellente journée à tous. Je rappelle que les liens utiles seront mis sur la page de podcast Séquence Parc, donc sur Radio Bartas. Excellente journée et merci à vous.
Merci.
Merci.
C'est la fin de Séquence Parc. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radiobartas.net.